Eh bien, en ce samedi matin, comme promis sur Radio VFM, nous allons vous parler de ce livre qui vient tout juste de sortir, Virneville et la Grande Guerre, proposé par l'antenne de Vire Normandie de l'Université Interage de Normandie, donc, et l'Atelier du Patrimoine, un atelier qui travaille depuis de nombreuses années pour nous raconter l'histoire de Vire et pour justement nous donner des éléments historiques dont on manque toujours, et puis surtout, eh bien, apporter aux nouvelles générations, l'histoire de la ville et du bocage. Ce livre est tout juste donc sorti, Virneville et la Grande Guerre, 10 millions de morts, 6 000 par jour. C'est l'équivalent de la population viroise en 1911. Autant de prisonniers militaires et civils, 20 millions de blessés dont 10 millions d'invalides. Un bilan incroyable quand on regarde encore les chiffres aujourd'hui. Le bilan de la Première Guerre mondiale en France, une guerre qui a causé la mort d'environ 1 400 000 soldats, engendré près de 4 millions de blessés, 530 000 prisonniers, mais aussi beaucoup, trop d'oubliés. Et le bocage virois n'a évidemment pas été épargné. Et c'est cette histoire qui est racontée, cette histoire de personnes décédées, blessées, prisonniers des communes de Vire et Neuville, car à l'époque il y avait deux communes donc, et qui est racontée donc dans ce livre. Alors pour en parler avec nous ce matin, Pascal Simonin, Jean-François Le Chevalier, Jean-Pierre Dupré, Jean-Luc Augel et Guy Chevreau, ils ont contribué à l'écriture de ce livre et à l'énorme travail de recherche qui a été réalisé. Un livre d'une grande qualité, passionnant, vraiment passionnant, où j'ai beau me pencher depuis des années sur l'histoire de la ville, c'était toute une partie qu'on a tendance à oublier parce que Vire, c'est les bombardements, c'est le 6 juin, c'est l'effondrement de la ville sous les bombes américaines, et on parle peu finalement de cette Première Guerre, mais qui a marqué la ville parce que elle la marque encore par l'intermédiaire de monuments qui se trouvent dans cette ville. Alors, moi j'aimerais, messieurs, puisque vous êtes autour de notre table dans le studio Michel Drucker aujourd'hui, bien vous demander d'abord comment est née cette idée donc de faire ce livre, Guy Chevreau.
Oui, alors donc cette idée est venue, alors je m'intéresse à l'histoire locale, donc j'ai déjà travaillé personnellement sur la Première Guerre mondiale à l'échelle de Coulonc, mais aussi en 2018, dans le cadre de l'exposition à la Porte Horloge pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait une exposition. Et donc, il n'existait pas d'ouvrage sur ce sujet. Les collectionneurs virois ont publié déjà plusieurs ouvrages, mais cette partie de l'histoire avait été abordée, mais assez succinctement. Donc, nous avons voulu combler cette lacune.
Alors, une histoire à raconter, une histoire aussi de drames familiaux, bien évidemment, mais il y a l'histoire et puis il y a aussi la sélection dans l'histoire, parce qu'on ne peut pas tout dire. Comment vous avez travaillé donc sur les temps forts qui sont racontés dans ce livre, Jean-François Le Chevalier?
Oui, alors effectivement, on ne pouvait pas tout raconter, hein, parce qu'il y a près de 400 soldats qui sont morts à cette guerre, tant Neuville que Vire, et on a dû faire des sélections. Et tout bonnement, ça a dépendu des informations que nous avions. Alors ces informations, nous avons été les chercher dans les archives administratives, militaires, mais aussi nous avons rencontré un certain nombre de descendants et qui nous ont fourni des informations orales, mais aussi un certain nombre de documents qui sont d'ailleurs imprimés dans ce document. Et c'est un peu comme ça que nous avons pu élaborer cet ouvrage, hein, d'une part à partir des archives, et d'autre part à partir des rencontres que nous avons pu faire avec des descendants.
Alors, justement, ces descendants, on leur avait vraiment raconté l'histoire? Quand on a connu deux guerres, on dit que toujours c'est compliqué que les personnes qui ont connu ces deux guerres, donc la 14-18, 39-45, se livrent déjà peu. Et là, sur une guerre aussi lointaine, est-ce que les témoignages ont été faciles à recueillir, Pascal Simonin?
Alors, ce qui nous a manqué comme témoignage, c'est que certains soldats, forcément les morts pour la France n'ont pas témoigné, mais certains prisonniers de guerre n'ont jamais parlé de leur internement en Allemagne.
Voilà, c'est ce que j'ai...
Donc même leurs enfants, leurs petits-enfants, ne savaient même pas que leurs ancêtres avaient été prisonniers en Allemagne. Donc il a fallu même pour certains les aider à redécouvrir cette histoire qu'ils ne connaissaient pas. La honte pour certains soldats d'être revenus, pas morts, de ne pas avoir fait les tranchées, et pas de s'être pas planqué pendant 4 ans en Allemagne, parce que les conditions d'internement étaient sévères, mais la peur de la honte, enfin la honte de raconter, d'avoir survécu à cette guerre, de ne pas avoir fait les tranchées.
Quels ont été justement les moments forts, les témoignages peut-être un peu différents de ce qui a été vécu, chacun a une vie différente, mais des choses qui vous ont étonné et que vous ne pensiez même pas trouver?
Faire découvrir à quelqu'un que son père a fait Verdun, a été prisonnier sans ne l'avoir jamais su, et découvrir à cette occasion que lui, ayant fait son service militaire à Verdun, comprenait pourquoi son père n'avait jamais voulu l'accompagner. Des choses aussi fortes que ça. On vient pour une rencontre, pour une photo, pour boire un café, on reste 4 heures à discuter.
Alors, sur ce livre, Pascal Simonin, donc on a tout un récit, on découvre des familles entières avec des documents. Comment vous avez dressé ce récit page par page?
Le plus dur, c'est faire une sélection, parce qu'on peut pas, vous pouvez vraiment pas tout mettre dedans. On a décidé de parler de Virneville avant la guerre, la situation de la ville à ce moment-là, de parler de Virneville pendant la guerre, puisque les hommes vont au front et les femmes restent, et les enfants. Donc il faut bien que quelqu'un assure l'arrière. Et puis on a parlé de la situation pendant la guerre avec les échanges, parce qu'il y a quand même des échanges de courriers entre les familles. Et puis après, l'après-guerre, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Et nous avons continué le travail jusqu'à l'élévation du monument aux morts de Vire en 1924.
1924, voilà. Et ce travail et ce bilan humain de l'année 1914, il est quand même très lourd, quoi. Enfin, vous citez des chiffres qui peuvent paraître incroyables maintenant.
Oui, et j'ai envie de dire, la Normandie et la Bretagne ont peut-être payé un des plus lourds tributs pour la France, pour la patrie. C'était les premiers régiments qu'on a envoyés au combat en Belgique et sur les frontières. Et effectivement, tous les régiments normands et bretons ont beaucoup donné pour la France.
Comment on vivait à cette époque en attendant le retour de son homme, de son père, de son grand-père? Qui est-ce qui peut nous raconter ça?
Déjà, dans l'attente de nouvelles, l'absence de nouvelles était signe d'inquiétude. Et donc, c'était effectivement parfois difficile pour ceux qui vivaient à l'arrière. Alors, ils lisaient les informations dans la presse locale de l'époque, mais la presse était soumise à une certaine censure. Donc, les informations étaient parfois inexactes. On a le cas, par exemple, d'un soldat qui a été annoncé décédé. Finalement, il n'est pas décédé, d'où le titre de l'article « Ne désespérons jamais ». Et donc, finalement, il a été capturé, il a été fait prisonnier, et il n'a pas été tué pendant la guerre.
Et ce qui est étonnant aussi dans ce livre, c'est les photos que vous avez retrouvées. Alors, il y a les photos plus classiques, mais il y a aussi des photos vraiment personnelles. Il y a, sur les prisonniers de guerre, par exemple, il y a des photos étonnantes. Comment vous avez puisé dans les tiroirs
Des familles en particulier que nous avons obtenu ces documents. Et il faut préciser peut-être une chose, c'est que les documents ont été tous ou presque tous travaillés par Jean-Pierre Dubuche.
Rapprochez-vous un petit peu. Voilà.
Jean-Pierre Dubuche.
Ouais. Voilà. Oui, de toute façon, un livre sans Jean-Pierre Dubuche à lire, ce serait vraiment dommage.
Au niveau de l'iconographie. Ouais. Donc, et bon nombre de documents sont inédits. Même pour des gens qui connaissent très bien l'histoire de Vire, ils vont découvrir des documents qui sont tirés d'archives familiales. Donc, on a utilisé parfois des outils généalogiques, puisque je fais partie de l'atelier de généalogie dirigé par Pascal Simonin, pour retrouver des descendants. C'est aussi une de nos pistes.
Vous vous êtes séparés un peu le travail? Comment vous avez fonctionné entre vous? Là, vous êtes un groupe de... de cinq qui travaillent au sein donc de cet atelier. On va laisser parler Jean-Pierre Dupré qu'on retrouve régulièrement, qui d'habitude nous parle cinéma et pas grande guerre.
Cinéma aujourd'hui.
Voilà. Donc Jean-Pierre, comment c'est réparti tout le travail que vous avez réalisé?
Alors, il faut savoir
deux ans, ça m'a paru hyper court pour faire un tel recueil.
Ça dépend à laquelle fréquence on se voit.
Oui c'est ça. Vous êtes un club d'entraîné, vous pouvez vous voir plus souvent.
Fréquence, je dis ça parce que je fais la radio, mais...
Ouais.
Non, on s'est vu régulièrement, pratiquement tous les mardis,
et
pendant plusieurs heures. On a beaucoup travaillé également au téléphone pour la mise au point, le plan, la relecture. Alors effectivement, Pascal s'est plutôt occupé, lui, des prisonniers. Moi, j'ai essayé de confectionner la partie sur l'événementiel au début. Guy a beaucoup fait les recherches sur les soldats. On a intégré à chaque fois le général et le particulier, de manière à ce qu'à chaque fois qu'on parlait d'une bataille, il y ait bien sûr des soldats en relation avec cette bataille, qu'ils soient morts, blessés ou... prisonnier. Voilà, ça a été un petit peu sale, mais c'est vrai qu'on y a pris du plaisir, il faut pas dire ce qui est. Et Jean-François, bien sûr, pour la partie Neuville, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Régis, deux communes à l'époque.
Ça peut paraître complètement fou pour les jeunes qui nous écoutent et d'autres générations un peu moins jeunes, même la mienne. Il y avait Neuville, où nous sommes d'ailleurs, les studios de la radio sont à Neuville. Oui. C'est l'ancienne école de Neuville où nous sommes installés. Hein, voilà, on est dans l'ancienne école de Neuville. Et Neuville a été la première commune associée à Vire. Quoi. On ne parlait pas de Vire-Normandie à l'époque. À l'époque, on faisait disparaître Neuville, d'ailleurs, pour s'appeler uniquement Vire.
Il faut parler de la gare.
La gare aussi.
La gare dite de Vire, c'est toujours appelé Vire, mais elle était située sur Neuville. L'argument des chemins de fer, c'est qu'il existe plusieurs Neuville en France. Pour éviter une confusion, donc on l'a toujours appelé gare de Vire.
Mmh, tout à fait. Et donc, les monuments, l'histoire de ces monuments aussi, on la retrouve dans ce livre, la construction des monuments, on s'aperçoit que ça n'a pas été dès le lendemain de la guerre. Hein. C'est quelque chose qui a été voulu par le maire de l'époque. Et ça a amené beaucoup de discussions aussi. Hein.
Oui, alors le premier monument, enfin, ce qui concerne Vire et Neuville, c'est le monument de Neuville qui a été inauguré donc, en août 1920. Donc, c'est très, très peu de temps après la fin de la guerre. En revanche, pour Vire, on a mis un peu plus de temps. Alors, il y a aussi, donc, il a fallu choisir le monument. Donc, il a fallu choisir l'emplacement, ce qui a été sujet à discussion. D'ailleurs, à ce sujet, peut-être qu'il faudrait préciser que le monument de Vire est un monument un peu méconnu des Virois, parce qu'il est situé en dehors des places publiques, mais c'est peut-être ce qu'il a et sans doute préservé.
Situez-le pour ceux qui nous
Alors,
écoutent.
Alors, il est situé donc à l'intérieur du cimetière Saint-Benoît, c'est-à-dire le plus grand cimetière de Vire. C'est un très beau monument d'inspiration art déco et qui a été inauguré donc en novembre 1924. Nous voulions que le livre sorte corresponde au 100e anniversaire de l'inauguration du monument.
Alors ce monument, donc, on vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il est vraiment très particulier et c'est vrai très peu connu. Comment retrouver toutes les personnes disparues, décédées, là aussi, le monument a servi quand même de base ?
Oui. J'avais cette recherche qui avait été déjà effectuée pour 2018. Et donc, j'ai utilisé, bien sûr, les néons qui figurent sur les tablettes du monument de Vire, avec une difficulté, c'est qu'on n'a que l'initiale du prénom. Donc, quand le patronyme est courant, ça représente une certaine difficulté parfois. Ou quand le patronyme est écorché, il y a une erreur dans l'orthographe. Et donc, pour retrouver tous ces soldats, j'ai utilisé également la presse de l'époque. Un journal qui s'appelait donc Le Bocage a eu la bonne idée pour le monument de Vire, au moment de l'inauguration, de publier la liste complète des soldats, avec cette fois-ci le prénom, au moins un prénom. C'était parfois le prénom Usbel, c'est pas forcément le premier prénom dans l'état civil, mais après avec des outils généalogiques, avec les bases qui existent, Mémoire des Hommes par exemple, Mémorial Genweb, c'est aussi un site qui est très intéressant, qui répertorie pratiquement tous les monuments de France, donc on a utilisé évidemment tous ces outils.
Et vous parlez également, puisqu'on est au niveau du monument qui est dans le cimetière Saint-Benoît, vous parlez aussi de tombes, de soldats qui n'ont rien à voir avec la région et qui sont ici dans ce cimetière. Qui peut nous parler de ça, Jean-Pierre ?
Oui, parce que tout simplement, certains avaient des parents qui étaient à Vire ou à Neuville, ou s'étaient mariés à Vire ou à Neuville, ou travaillaient à Vire et à Neuville comme domestiques ou par exemple au chemin de fer. Et forcément, ces gens-là se retrouvent dans notre étude, parce qu'il faut savoir qu'on a donc 395, pour être précis, soldats répertoriés, mais que dans le livre, on n'a pas pu mettre les 395. Ça aurait été un bouquin énorme. Mais, et c'est là où intervient également le rôle de l'UIA, et je vais passer la parole à Jean-Luc Hoguel, parce qu'il y a une innovation dans ce livre dont il va vous parler.
Alors Jean-Luc, dites-nous tout sur l'innovation.
Alors d'abord, il fallait mettre en ligne une base de données. On a créé une base de données, bien sûr, pour pouvoir avoir toutes ces informations, pouvoir les trier, pouvoir les étudier et pouvoir surtout tout référencer. Donc cette base de données existe, elle a servi de base d'ailleurs pour le livre, et on s'était demandé comment la mettre à disposition au lecteur, celui qui le souhaite tout au moins, pour pouvoir consulter ces informations au mieux. Et on a eu l'idée donc de mettre en fait en ligne sur notre site internet directement ce fichier qui est téléchargeable par le lecteur. Donc on a indiqué à la fin de l'ouvrage un lien qui permet d'aller d'accéder à ce fichier et de pouvoir le consulter, pouvoir faire des tris, etc., etc. Voilà, donc ça a été l'idée, parce que sinon c'était quelque chose qui n'était absolument pas exploitable autrement qu'informatiquement.
Alors le lien, c'est même un flashcode, hein, carrément. Donc,
oui, carrément, oui.
Vous êtes branchés, les gars, là. Attention, là. Un club de retraités, là. Attention. C'est plus l'université Interâge, c'est tout âge, là. Non, mais c'est hyper pratique. Moi, je voudrais revenir, parce que le temps tourne et il va falloir rendre l'antenne, mais sur quelque chose qui m'a fait bondir dans le livre, parce que j'étais vraiment pas du tout au courant de ça. Et je savais même... Jean-Pierre, on n'en a pas parlé, pourtant on se voit régulièrement toutes les semaines, on n'en a pas parlé, quand j'ai lu le livre, je suis tombé sur le camp des indésirables. Alors là, j'avoue, je ne savais pas du tout, déjà le mot, j'ai vu la photo d'abord et après je suis plongé dans l'explication, le camp des indésirables, installé dans l'ancien petit séminaire, aujourd'hui dans une partie du collège Maupas, c'est quoi ce camp des indésirables, Jean-Luc ?
Bon, je veux bien.
Guy. Guy, allez-y, Guy.
Plutôt Guy.
Plutôt Guy.
Alors,
d'accord.
Donc, le camp des.
Le plus indésirable des cinq, c'est Guy. Voilà, d'accord. Voilà. Okay,
le contraire du plus désirable.
Voilà.
Alors, on l'a appelé le camp des internés, on l'a appelé le camp des indésirables, on l'a même appelé officiellement et dans la presse de l'époque le camp de concentration. En précisant toutefois que ça n'a rien à voir avec les camps de la Seconde Guerre mondiale. Camp de concentration, il faut entendre par là, camp de regroupement. Alors, on a mis dans ce camp des ressortissants de pays ennemis à l'époque, donc des ressortissants allemands, autrichiens, par exemple, turcs, aussi de colonies allemandes, puisque les Allemands possédaient des colonies. Et donc, tous ces gens ont eu un délai très très court quand la guerre a éclaté pour quitter le territoire français. Mais ils ont été piégés en quelque sorte, puisque les trains ont été réquisitionnés par l'armée pour le transport des troupes. Donc, bon nombre n'ont pas pu quitter le territoire et ils ont été arrêtés. Il existait un camp de triage à La Ferté-Macé et ensuite ils étaient répartis, je parle au niveau donc de la Normandie, ils étaient répartis notamment dans le camp donc qui se trouvait à Vire. Mais il existait aussi un camp, par exemple, sur l'île de Tatillou, dans la Manche. On comprend pourquoi il se situe à cet endroit-là. Mmh. Voilà. Et donc, on a eu ce camp des internés qui a fonctionné pendant de 1914 à 1919, avec à peu près, d'après le dernier directeur, 1350 internés. Le chiffre est à prendre avec une certaine précaution. Voilà.
Un voilà. Livre passionnant. Oui,
je voudrais rajouter juste une chose, c'est que tout ça se fait sous l'égide de Madame Coq, qui dirige l'atelier patrimoine depuis de nombreuses années, que c'est le cinquième ouvrage...
Qui fait partie du patrimoine, carrément. Janine, c'est moi qui l'ai dit, Janine. Voilà.
Et que c'est le cinquième livre qu'on édite, et que c'est important, et là, Jean-Luc peut m'appuyer, nous sommes une des rares, sinon la seule antenne de l'université à faire ça.
Oui, tout à fait. En fait, dans l'université Interage, c'est 19 antennes sur les 3 départements de l'ex-Basse-Normandie, qui représentent d'ailleurs à peu près 9600 étudiants cette année. Et donc, nous sommes la seule antenne depuis bientôt une douzaine d'années à faire des ouvrages. Et c'est grâce, bien sûr, à Janine Coq et à l'atelier patrimoine qui, à peu près à une cadence de tous les 3 ans à peu près, fait un nouvel ouvrage.
Voilà. Et le prochain, donc, dans 3 ans.
Ben, j'espère bien. En tout cas, on vous retrouve dans 3 ans. Le livre, il est disponible à l'espace culturel de Vire, à Leclerc, à l'office du tourisme aussi de Vire, à l'Intermarché de Vire prochainement, aux Fleurs de Beny, au Fil du Temps également sur Beny. Vous le trouverez également prochainement à Saint-Sever et dans d'autres lieux, je suppose.
Et oui, et il y aura une dédicace au Fil du Temps à Beny le 21 décembre à 11h. Donc, venez si vous êtes de Beny ou d'ailleurs. Oh. Vous verrez les auteurs et vous pourrez profiter avec une dédicace.
Oui, et en plus, c'est un super cadeau aussi pour Noël, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire locale.
C'est ce qu'on pense aussi.
Mais c'est bien pour ça que vous l'avez sorti avant. Il y a quand même un petit côté commercial.
C'est ce qu'on me dit, oui.
Bah oui, quand même.
C'est pas la radio qui va me dire le contraire.
Non, mais tout à fait. Tout à fait. Et c'est très qualitatif, c'est agréable à lire. Vraiment, on sent que vous avez été bien conseillé parce que la lecture se fait vraiment très, 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 très facilement.
Oui, petite précision, imprimé à Vire.
Et imprimé
à Vire. Donc on fait travailler le local.
Très bien. Le prix
27 euros.
Enfin, on termine par le prix quand même.
Oui, parce que c'est important.
Voilà, c'est pas cher. C'est une histoire fabuleuse. Je voulais vous poser une dernière question en guise de conclusion de cette rencontre en ce samedi matin sur Radio VFM. Est-ce que vous envisagez de raconter l'histoire de ces familles jusqu'à la guerre d'après 39-45 et voir peut-être comment d'autres ont replongé dans la guerre et dans le malheur?
Il y en a quelques-uns dans le livre.
Ben, oui, je pense, oui.
Oui, il y en a quelques-uns qui vont faire partie des victimes civiles lors du bombardement, par exemple en 44. Alors, l'idée que vous suggérez, pour l'instant, n'est pas dans les tiroirs.
D'accord, ok.
Mais ça pourrait être un projet...
Bon, mais avant qu'on soit vieux.
Oui, voilà. Non, mais voilà, ces gens-là, ils ont connu 2 drames, quoi. Donc voilà, il y a peut-être à puiser encore. Bon, je vous laisse l'idée et les droits d'auteur aussi.
D'accord, merci.
Rassurez-vous. Pascal Simonin, Jean-François Le Chevalier, Jean-Pierre Dupré, Jean-Luc Auguel, Guy Chevreau, merci d'être passés dans nos studios en ce samedi matin. Vire, Neuville et la Grande Guerre, par l'antenne de Vire Normandie et son atelier du patrimoine, à découvrir de toute urgence aussi pour ces fêtes de fin d'année et pour en savoir beaucoup plus et peut-être aussi d'aller voir ce fameux monument, donc dont celui de Saint-Benoît, pour en savoir plus sur cette histoire des deux villes à l'époque, Vire et Neuville. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci d'être passé parmi nous en ce samedi
matin.
Bonne
fête à tous.
Bonne fête à tous.